Allô tout le monde, Éric Flynn avec vous sur radio-nostalgie.ca. Effectivement, la nouvelle est tombée, le décès à l'âge de 73 ans d'Olivia Newton-John, et qui a été une icône, une idole à la fin des années 70, début 80, jusqu'en 1983 environ. Ben justement, on va faire un survol de la carrière, de la vie, de la musique au cours de la prochaine heure. Tout sur Olivia Newton-John, bien entendu. Et oui, effectivement, puis elle a commencé, on va en décortiquer un petit peu dans ses premières années, parce que elle n'a pas commencé à l'époque disco, là. Elle a commencé même dans les années 60, pendant ce que les Beatles commençaient presque. Alors, c'est ça. Mais pour commencer le tout, on va y aller avec une chanson quand même assez relaxe. Oui, une chanson pour les gens qui sont très nerveux dans la vie. Une chanson que les gens voient toujours du noir. Et c'est une chanson de 1975 d'Olivia qui est Have You Never Been a Mellow? Tu sais, prends ça relax, prends ça doux. Une chanson sur la douceur. Effectivement, la question de prendre ce relax, quand même, malgré tout. Malgré la peine que nous avons suite au décès d'Olivia, ben, pourquoi pas y aller dans une belle douceur en musique.
There was a time when I was in a hurry as you are. I was like you.
Vous écoutez le spécial Olivia Newton-John sur radio-nostalgie.ca. Donc, effectivement, qui est Olivia? Qui est-elle? On a toujours dit que c'est une artiste australienne, puis on s'aperçoit que, ben oui, elle vient de Cambridge en Angleterre. C'est que, bon, elle est née en Angleterre, oui, effectivement, à Cambridge, et dans le même patelin que deux personnes quand même très connues. Elle a fréquenté la même école primaire que Syd Barrett et David Gilmour de Pink. Pink Floyd. Donc, c'est une fille de ce petit coin-là. Et puis, elle est née en septembre 48. Et c'est ça. Sauf que c'est un petit peu plus tard qu'elle va vivre en Australie. Ça, c'est à l'âge de 5 ans. Mais elle va revenir en Angleterre à l'âge de 11 ans. Mais sauf qu'elle aura toujours un pied là, vraiment à terre avec, avec l'Australie. Et c'est ça. Donc, c'est à l'âge de 5 ans qu'elle s'en va vivre en Australie avec sa famille, bien sûr. Elle n'est pas allée là toute seule. Mais un petit peu pour un petit clin d'œil sur sa famille, quand même, c'est la petite-fille du physicien allemand Max Born, qui est décédé en 1970, donc qui est quand même là, un grand physicien qui avait à cette époque-là, dans le dernier siècle. Et son père, ben, qui était enrôlé dans les forces britanniques durant la Deuxième Guerre mondiale, il fait partie de ceux qui ont procédé à l'arrestation de Rudolf Hess en 1941. Qui est Rudolf Hess? C'était le dauphin d'Hitler. Et c'est lui, à un moment donné, il y a eu une bulle au cerveau, il a décidé qu'il partait de l'Allemagne en avion pour aller rencontrer Churchill pour faire un accord de paix, tu sais. Et c'était vraiment en 1941 où tout allait bien pour les nazis, et Hitler avait mal pris ça, et puis Rudolf Hess qui va mourir en prison à la prison Spandau en Allemagne. Donc, c'est ça, et puis comme je vous dis, elle retourne en Angleterre, elle quitte l'Australie à l'âge de 11 ans, parce que ses parents ont divorcé quand même à cette époque-là. Donc, c'est ça. Et puis, oui, effectivement, elle va faire des chansons dans les années 60 et ça va quand même assez bien marcher. Elle va même représenter l'Eurovision du côté de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Elle va terminer quatrième et les gagnants de cette édition-là au début des années 70, c'était le groupe ABBA. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, ben, c'est ça, c'est que c'est lorsqu'elle est allée faire une carrière du côté américain, c'est là qu'elle a changé son style pour le country. Et puis, elle a fait beaucoup de country au début. Même, on la reconnaît beaucoup comme une chanteuse country, bien avant une chanteuse pop, là, tu sais. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, en 1974, et ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'était pas tous au courant, c'est la pièce « I Honestly Love You » qu'elle a fait une version française. Et cette pièce-là, ben, ça a été son tout premier numéro un aux États-Unis. Et puis, c'est ça. Puis, elle a fait une version en français de cette chanson-là. Nous, on va y aller avec deux pièces. C'est avec Deeper Than the Night en 1978 et toujours en 1978, A Little More Love, qui est peut-être... c'est pas de rockers, là, mais c'est peut-être la chanson la plus rock d'Olivia Newton-John. What? Night is dragging her feet.
Make it right.
Robert and the Night avec Olivia Newton-John. Oui, effectivement, c'est un spécial, Olivia, qu'on fait suite à l'annonce de son décès. Je vous parlais un peu tantôt du côté country d'Olivia parce que c'est un côté qu'on connaît beaucoup moins. Alors ça, c'est plus là, vers 1975. C'est une de ses amies en Australie, Ellen Reddy, qui l'encourage vraiment de quitter l'Angleterre et s'installer aux États-Unis parce que elle lui dit, tu sais, écoute, là-bas, là, tu vas aller jouer du country puis du western puis tu vas pogner. Et c'est ce qui va arriver aussi. Sauf qu'on connaît un petit peu le côté puriste de Nashville et lorsqu'une étrangère arrive ou un étranger, c'est vraiment pas évident. Sauf qu'elle va quand même, avec tout le talent qu'elle a, là, elle va réussir à aller chercher un Grammy Award comme l'artiste féminine country de l'année et aussi un Academy of Country Music Award comme révélation féminine country de l'année. Et ça, ça sera devant des poids lourds, un peu comme Dolly Parton, Tanya Tucker et Tani Wynette. Donc, elle a quand même réussi où tout le monde n'aurait pas pensé du tout qu'elle aurait percé du tout. Et elle réussit à se faire un nom dans le monde du country, malgré les puristes qui ont autour. Et ça a dû pas être vraiment pas évident pour connaître un peu l'histoire de Shania Twain, comment est-ce que ça a été difficile pour elle, même elle n'a jamais été acceptée de toute façon par Nashville. Alors, c'est vraiment, tu sais, il faut vraiment que tu sois du coin et, tu sais, vraiment là, la ceinture fléchée, là, comme on dirait. Et puis, c'est ça. Sauf que c'est une soirée avec le producteur Alan Carr, qui, lui, bon, c'est une soirée à Los Angeles. Puis lui, il lui offre le premier rôle féminin de sa prochaine comédie musicale, qui s'appelle Grease. Donc, on tombe dans les années Grease, maintenant. Et c'est sûr que, parmi les comédies musicales, les films, dans les films musicaux, bien entendu, Grease, c'est pas mal en tête, hein. C'est, dans les films de musique, là, c'est pas mal Grease, là, qui est pas mal bon. Oui, à cette époque-là, c'était très à la mode, là. Tu sais, on avait les films Jesus Christ Superstar. Il y en avait plein, là, tu sais. Bien entendu, John Travolta, qui avait été une révélation quelques années auparavant, avec, La fièvre du samedi soir. Donc, c'était la mode disco qui était vraiment à son apogée. Et on est toujours, là, depuis tantôt, là, honnêtement, dans les chansons d'Olivia, là, on est toujours en 1978, à part la toute première chanson qu'on a jouée, là, et c'est loin d'être terminé. Donc, ça a vraiment été, là, 1978, c'est vraiment l'apogée de la carrière, là, d'Olivia, mais qui va continuer encore, là. Mais tu sais, c'est vraiment, là, le pic le plus haut pour Olivia, c'est vraiment 1978. Et là, c'est la comédie musicale de Grease qui va devenir une trame sonore, un film. Au niveau planétaire, elle sera connue à travers la planète. Et en plus, elle a d'autres talents en plus. C'est qu'elle sait très bien danser, elle danse très bien. Et oui, effectivement, parce que dans Grease, on remarque surtout le talent de danse de John Travolta, mais on oublie aussi le talent de danse de Olivia Newton-John, qui a toujours été une des meilleures danseuses dans le monde de la musique, là, presque autant que Madonna, là, tu sais. Donc, ça a été vraiment là, l'apogée de la carrière pour ce qui est de Olivia Newton-John, avec la sortie de Grease, bien entendu. On va y aller avec trois pièces. Il y a la toute dernière, ça sera une balade, la fameuse balade qu'elle va faire, Hopelessly Devoted to You. Ça, cette chanson-là, en passant, c'était dans le contrat d'Olivia Newton-John pour le film Grease, qui stipulait qu'elle devait avoir une place en solo avec une de ses chansons à elle. Et c'est ça, sauf que dans le montage, on n'avait aucune idée où est-ce qu'on pouvait placer cette chanson-là. Et puis, finalement, à la fin du film, ben, on a dit, coudon, on trouve pas de place vraiment pour essayer d'intégrer cette chanson-là. Et c'est à la fin du tournage où elle va faire la vidéoclip. Faut pas oublier que, on commence un peu à avoir un petit peu plus de vidéoclip, malgré que c'est plus une affaire des Anglais. Oui, Olivia, c'est une Anglaise. Mais c'est ça, donc, c'est ça, c'est que ça a été fait complètement à la fin du tournage de Grease. Et puis là, on a réussi à l'embarquer quelque part dans le film. Mais sauf que, c'est ça, tu sais, elle va avoir une seule nomination au Oscar. Et Et ça sera cette chanson-là qui aura mérité un Oscar pour la chanson originale dans un film. C'est quand même assez gros aussi, là. Donc, on va avoir la ballade Hopelessly Devoted to You. Également aussi deux pièces avec John Travolta qu'on connaît très bien, Summer Night et You're the One That I Want. Tout ça sur Radio Nostalgie, c'est le spécial Olivia Newton-John, qu'on salue en passant de où ce qu'elle est, de où ce qu'elle voit à travers les nuages.
I got chills, they're multiplying.
Got a cramp.
He revived me.
her we'd still be friends.
Then we made our true love vow.
Wonder what she is doing now. Summer dreams ripped at seams, but those
excellente balade avec Olivia Newton-John, bien sûr. C'est le spécial Olivia sur radionostalgie.ca. Et effectivement, on parle un peu de sa carrière qu'elle a connue. Et là, ben, c'était vraiment les belles années, les grosses années. Et ça continue comme ça. Et aussi, ça va continuer vraiment là, au début. Là, c'est, on entre vraiment dans les années 80. C'est côté Grease. C'est maintenant, on passe complètement à autre chose. Et c'est là qu'elle va vraiment devenir au sommet de la planète, vraiment. Et c'est ça. Donc, elle va sortir une chanson où elle va vraiment influencer le monde, vraiment à faire de la R&B et aussi à s'entraîner, le côté vraiment là, forme physique. Il y avait comme une mode au début des années 80 où, et c'est sûr qu'on était inspiré. Il y avait Rocky qui était populaire, qui inspirait des plus jeunes même à s'entraîner, que ce soit de la boxe ou non. Mais tu sais, il y avait comme une mode là où on fallait s'entraîner. C'était les années 80 qui étaient là et c'était vraiment les belles années. Bien entendu, il y avait un gros hit, Physical. La grosse mode, Olivia Newton-John, qui continue dans les années 80, Physical. Et dans sa tournée nord-américaine, elle a fait 64 shows dans 40 villes depuis devant près de 600 000 personnes. C'était vraiment là, énorme. Et c'était vraiment là, c'était la chanteuse la plus populaire au monde. C'est pas compliqué. Là, oui, il y avait à cette époque-là Debbie Harry avec Blondie, mais Debbie Harry n'a jamais été capable. Peut-être pas de s'approcher, mais n'a jamais été l'équivalent de ce que Olivia faisait à l'époque là. C'est sûr, Olivia, c'était plus du côté pop, malgré que Debbie Harry, c'était pas mal pop aussi, même si elle vient du monde du punk. Mais c'est ça. Sauf que c'était vraiment. Il y avait dire qu'une rivalité, oui ou non, c'est un peu comme la rivalité Cyndi Lauper et Madonna qui a eu en même temps. Tu sais, à un moment donné, c'est que il y en a un qui devient trop fort et tout simplement, ben la popularité d'Olivia Newton-John était vraiment là à son sommet. Et là, ben on arrive et on dit tiens, pourquoi pas, bon, Physical, ça va bien. Et ça, cette chanson-là, bon, comme je vous disais, ça a été un grand numéro 1. Pendant 10 semaines, ça a été numéro 1. Et à ce moment-là, la seule chanson chanson qui avait été le plus longtemps numéro 1, c'était Undone de Elvis Presley. Alors, ça a battu des records. Et pendant 9 des 10 semaines pendant laquelle la chanson a été numéro 1, il y avait Waiting for a Girl Like You de Foreigner qui a été en deuxième position presque tout le temps. Et c'est ça. Et il a fallu attendre vraiment là à la fin où la pièce a réussi à se faire une petite place en première position. Mais sauf que le hic, c'est qu'il y en a une qui l'avait comme un peu dépassée. Et c'est ça, à la fin de Physical, lorsqu'elle a été détrônée, ce n'était pas par la pièce des Foreigner, mais plutôt par une pièce de Hall & Oates, I Can Go For That. Donc, c'est elle qui est arrivée. Frooks qui s'est faufilé en première position. Mais un petit peu après, Waiting for a Girl Like You de Foreigner a réussi à se hisser en première position. C'est sûr, Olivia n'a jamais été une fille qui était une provocatrice. Tu sais, on le voit aussi, l'image qu'elle projetait dans Grease, tu sais, la fille sage avec des longues robes, tu sais, c'était l'image un peu que, oui, c'était un petit peu l'image qu'on a toujours eue d'Olivia Newton-John. Ça n'a jamais été une fille qui a joué avec la controverse. Tu sais, c'était ça, Olivia Newton-John, dans le fond. Tu sais, c'était pas la fille qui était un petit peu ce qu'on appelle un peu Saskatchewan, là, t'sais, buveuse de lait, là, t'sais. C'était vraiment un peu comme ça, là. Tandis que Debbie Harry, c'était pas dans le style buveuse de lait, là, t'sais. Mais il y a eu quand même on a trouvé une petite controverse là, sur Olivia Newton-John. Finalement, un jour, on a fini par trouver quelque chose en grattant bien, bien fort. Ben, faut aller dans l'État, à Salt Lake City, en Utah. Ben, lorsque la pièce, elle est sortie Physical, c'est que les stations de radio dans le Utah, ben non, à Salt Lake City, ont décidé de refuser de jouer cette pièce-là en raison du contenu sexuel qui a été voilé. Donc, on disait que, puis ça n'a fait qu'ajouter à la popularité de la chanson, c'est que oui, effectivement, on parle que c'est pas une chanson sur le physique, dans le fond, tu sais, d'inspirer les gens à faire de l'aréobie, là, tu sais. Non, c'était une chanson qui parlait de sexe, tout simplement, dans Physical. Mais bon, c'est ça, sauf que l'histoire va retenir que c'était beaucoup plus que ça, là, tu sais. C'était une chanson vraiment pour inciter les gens à faire du sport, à s'entraîner, tout simplement. Oui, effectivement. Donc, tout va très bien, et puis justement, à la même époque, il y a aussi un autre film qui arrive pour Olivia Newton-John. C'est le film Yanadu. Le film Yanadu, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? OK, il y en a qui vont dire que ça a été un flop. Pour ce qui est de la trame sonore, elle est incroyable. C'est une des meilleures trames sonores. Moi, je préfère, si vous me donnez le choix, la trame sonore de Grease ou celle de Yanadu, je prends tout de suite Yanadu. Avec Electric Light Orchestra, il y a Cliff Richards là-dedans, Olivia, il y a Gene Kelly. Et là, ben, c'est ça, elle fait un film avec Gene Kelly. Gene Kelly, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un homme qui était âgé quand même, là, qui fait partie de la vieille école, un peu comme Fred Astaire, Frank Sinatra, qui était quand même assez âgé en 1980, mais sauf que c'était l'homme, un peu comme Grégory Charles, l'homme qui avait tous les talents. Ben c'est ça, c'était le Grégory Charles des Américains. non, mais c'est vrai, tu sais. Et puis, c'est ça. Donc, et lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il a dit, moi, c'est terminé. Hein. Moi, j'ai arrêté de danser depuis plusieurs années. Et puis, il n'y a pas de problème pour faire un film. Sauf que moi, il n'y en est pas question. Je ne danse pas. Et il a fallu que Olivia sorte son petit chambre. Elle a dit, ben, j'aimerais ça, moi, danser avec toi. Et puis, il a été... il a été sous le charme de Olivia et il a finalement accepté de danser une toute dernière fois en carrière. Et il y a un passage dans le film où il danse avec Olivia Newton-John. Bon, c'est comme un genre de... Il repasse un peu au passé et puis dans les années 40. Et il se voit jeune avec une chanteuse, et la chanteuse, elle est bien sûr, c'est Olivia Newton-John, la fille des années 40, avec un petit look militaire qu'elle avait, si ma mémoire est bonne. Et les deux vont danser de la claquette, vont danser ensemble, et ça sera vraiment la dernière fois que Gene Kelly va danser, vraiment. pour le public parce qu'il ne voulait plus du tout danser. Donc, ça a été un des plus grands danseurs de l'histoire de la musique, un grand chanteur. Oui, on peut le comparer à Fred Astaire, on peut le comparer à Frank Sinatra, malgré que, oui, Frank Sinatra est capable de danser, mais ça a jamais... Même, ils ont déjà fait un duo ensemble, là, Kelly et Sinatra, ils ont déjà fait un duo ensemble là, au niveau de la danse, et on voit qu'il y a eu beaucoup de pratique pour Frank Sinatra pour essayer de copier un peu ce que faisait Kelly. Donc, ils ont fait le film Yanadu, et au box-office, ben c'est ça, c'est un film qui a été, comment dire, qui a été... qui a coûté quand même assez cher, 20 millions de dollars. Quand on repense à 2-3 ans avant, on a eu Star Wars qui avait coûté 11 millions. Celui-là en a coûté 20. Et qu'est-ce que c'est Yanadu? C'est quoi ce mot-là? D'où que ça sort? Puis ça vient d'un poème de Samuel Taylor Coleridge qui est décédé en 1834. Et ça, c'est un des si vous écoutez du Iron Maiden, vous allez voir beaucoup de poèmes inspirés de Samuel Taylor Coleridge par Bruce Dickinson, qui est l'idole de Bruce Dickinson. Donc, c'est lui qui a pris, et ça, c'était le nom fictif d'un pays où il y avait, la construction d'un dôme dans le poème, et puis le mot Yanadu, qui veut dire un paradis. Donc, c'est ça. Et puis, comme je vous dis, la trame sonore, ça a été incroyable. Et il faut pas oublier aussi que Yanadu, c'est la pièce qui a été écrite par Jeff Lynne, le leader de Electric Light Orchestra, qui font partie aussi de la trame sonore. Et puis, c'est ça. Le film a été un peu un flop. Est-ce que si le film avait sorti en 78, aurait plus pogné? Oui. On est en 1980, on tombe un peu dans les années Reagan. Est-ce que la mode du disco, le patin à roulettes, est-ce que c'était encore fort en 80, mais ça a été tout simplement un flop et... c'est ça, ça a quand même été excellent. Donc, pourquoi pas un petit clin d'œil à Yanadu avec Magic, mais tout d'abord, bien sûr, Yanadu avec Olivia Newton-John. Oui, pièce écrite par Jeff Lynne de Electric Light Orchestra.
Yeah.
Magic, Olivia Newton-John, effectivement, c'est le spécial Olivia Newton-John pour souligner un petit peu sa carrière avec la triste nouvelle qu'on a appris, son décès. Alors, c'est ça. Donc, Magic, qui est la seule chanson avec le mot Magic, dont le titre a réussi à être en première place au Billboard, hein, en passant. Donc, il y a déjà eu Puff the Magic Dragon de Peter Paul, Peter Paul and Mary, et aussi Magic Stick de 50 Cent, mais eux, ils ont atteint la deuxième position. Donc, la seule chanson qui a le mot, là. Et en passant, Magic était la chanson préférée de John Lennon avant son décès. Il avait déclaré au Newsweek qu'il avait qu'il était un fan de la pièce Magic, qui c'était sa tune qu'il écoutait toujours. Donc, avant de mourir, c'était sa tune préférée à John Lennon. Et il aimait bien aussi All Over the World de Electric Light Orchestra aussi. Donc, fort probable que John Lennon a vu le film. Il a vu le film Yanadu. Sûrement ça. Donc, ben c'est ça. Ça a été vraiment. Là, c'est vraiment le début de la fin. Le début de la fin pour ce qui est de Olivia Newton-John. Pourquoi? Parce que, bon, les belles années, tu sais, on parle de sa carrière qui a été très au sommet depuis 1977, et puis on sait que dans le pop, ça dure pas toujours, malheureusement, et oui, ça va durer, parce qu'elle va chanter quand même encore plusieurs années, mais lorsque tu es au pic de ta carrière, ben, tu sais, à un moment donné, tout ce qui montre redescend, et on est vraiment là dans le côté où ça va un petit peu moins bien là pour Olivia. Donc, en 1983, ben, elle fait un film, cette fois, qui est Second Chance, avec John Travolta. On veut un peu recréer un peu l'ambiance Grease, surtout qu'il y avait eu le film là, Grease 2, là, Brillantine 2, qui a été un flop carrément, avec mettant en vedette Michelle Pfeiffer. Et là, ben, on s'est dit, tiens, pourquoi pas ramener Olivia et John pour un autre film, mais sauf que ça va avoir été un flop carrément. Donc, ça n'ira pas tellement bien. Et puis, c'est ça. À part de ça, ben c'est ça. Puis justement, elle a quand même réussi à sortir un succès dans ce film-là. Et ça sera vraiment son dernier hit en carrière, là, Twist of Fate. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, ça a vraiment été son dernier hit en 1983. Et comme je vous disais, bon, c'est ça, tu sais, c'est... on parlait de Second Chance, mais c'est Two Ways of Kind. C'est ça qui a été la réunion de John et de Olivia. Et aussi, bon, ce qui est drôle un peu, c'est que lors de l'enregistrement, il y avait un jeune stagiaire qui était là, et puis, bon, lui, il servait un peu à porteur de verre d'eau, porteur de verre de café un peu à tout le monde, et puis on apprend qu'il apprend, ouais, le producteur le croise, puis il l'entend à un moment donné, il se met à chanter. Tout simplement, il dit d'abord, t'as une maudite belle voix, t'as du talent, pis nanana. Et le stagiaire en question, le jeune homme, est nul autre que Richard Marx, qui aura du succès, lui, plus tard, plusieurs années plus tard, aura du succès dans le monde de la musique avec l'album Repeat Offender. Il a eu beaucoup de succès à la fin des années 80, début des années 90. Donc, mais sauf que ça a été grâce à Twist of Fate que ça a ouvert la porte à Richard Marx. Bon, ben, ça, c'est la bonne nouvelle dans tout ça. Justement, on va l'écouter, puis après ça, ben, ça sera la conclusion du spécial Olivia Newton-John.
Don't know.
Olivier Newton-John, bien sûr, sur radionostalgie.ca. On est rendu pas mal à la conclusion. Donc, comme on disait, oui, effectivement, 1983, et c'est là que ça sera la pente descendante au niveau de la carrière d'Olivia. Pourquoi? Parce qu'on passe un peu à autre chose aussi. Il arrive une fille avec... avec un look un peu à la Marilyn, et puis elle devient la nouvelle reine du pop. Bien sûr, c'est Madonna qui arrive, et puis là, on a comme un peu... Elle a comme pris la place un peu, et ça, c'est toujours comme ça dans le monde du pop. Là, il y a tout le temps quelqu'un qui est au sommet, on peut reculer même dans les années 60 avec Cher, et continuer ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui, en passant par Britney Spears et Beyoncé, et ainsi de suite. Donc, ben c'est ça. Les belles années, c'est maintenant terminé. Sauf que là, bon, 1992, Olivia va surmonter un cancer du sein. Et puis, c'est ça. Elle va avoir une récidivise. Elle va récidiver en 2013, un petit peu là-dessus, mais c'est fin 2017 que ça va revenir. Et puis, vraiment, là, on annonce en 2018 qu'elle est au stade 4, l'obligeant vraiment à annuler tous ses concerts qu'elle devait donner, justement, au Canada et aux États-Unis. Et puis, c'est ça. Alors, bien entendu, on a appris son décès le 8 août 2022, qui elle décède à l'âge de 73 ans. Oui, c'est le cancer du sein qui l'aura finalement remporté. Ce qu'on peut dire au niveau de sa vie privée, elle sera mariée avec le comédien Matt Lattazzi, avec qui elle aura une fille, Chloé Rose, de 1984 à 1995. En 2005, elle va se fiancer avec le caméraman Patrick Dermott, qui lui va disparaître en mer sans être déclaré mort. Il y a son corps qui n'aura pas été retrouvé, mais sauf qu'en 2010, il réapparaît au Mexique, et là, il a refait sa vie après plusieurs années de silence, et il a tout simplement donné comme explication, on veut qu'on le laisse tranquille. Donc, c'est ça. Et c'est en juin 2008, elle va se marier au Pérou avec l'homme d'affaires John Easterling, avec qui, justement, elle va décéder là, dans ses bras, et ça sera lui qui aura envoyé le message dans sa page, dans ses réseaux sociaux. Donc, c'est ça, c'était la carrière d'Olivia Newton-John. Quoi dire, quoi de souvenir d'Olivia, en gros? Ben, c'est sûr, c'était pas la voix la plus puissante au monde, mais elle avait quand même une très belle voix. Elle s'ajustait vraiment dans tout aussi, hein, que ce soit le country. On l'a vu même au début de l'émission avec une pièce rock. Elle était capable d'aller chercher une petite voix un peu à la Kim Carnes, là, tu sais. Un peu comme à cette époque-là, il y avait Kim Carnes qui était populaire aussi. Total Eclipse of the Heart aussi. Le nom m'échappe, mais bon, vous savez qui on parle. Pas Kim Carnes, mais j'ai justement Kim Carnes dans la tête. Mais c'est ça, là. Je vais fermer le micro, je vais me souvenir de qui. Mais bon, comme vous voyez, les gens, c'est live. Hein? Je fais pas ça. je fais pas de montage après moi, là. T'sais. Donc, c'est ça. Et puis, dans les danseuses, ben, bien sûr que lorsque Madonna arrive, ben là, Madonna monte un cran de plus, ça c'est certain, mais elle n'était pas non plus la plus grande actrice aussi. Tu sais, elle n'a jamais été le top dans tout, mais elle était bonne dans tout. Un peu, justement, on parlait de Kelly tantôt, ben justement, c'était un peu pareil pour lui. C'était vraiment ça qui est à retenir. Et pendant plusieurs années, elle a dominé complètement le monde du pop. Elle était la reine du pop avant l'arrivée de Madonna. Alors, c'est ça, elle a une très belle carrière et elle fait partie des inoubliables. Bien sûr, lorsqu'on pense à elle, on pense tout de suite au film Grease et elle devient une immortelle. Donc, c'était la carrière d'Olivia Newton-John. On se laisse avec un accident de physical. Yes, make a move on me. Sur radionostalgie.ca. Bon été, Eric. Bye bye.